Il est 11h sur Radio Campus Tours, vous écoutez La Méridienne. Bienvenue si vous nous rejoignez. Aujourd'hui, vous entendrez Céline Leroux de Centraider et Marie-Claude Bolzon qui nous parleront de solidarité et de coopération internationale ainsi que du bien connu festival Plume d'Afrique. Vous entendrez également deux lectures par Muguette Delhomo, lectrice du cœur des lecteurs Plume d'Afrique.
Centraider, c'est donc une association régionale sur la solidarité internationale. Voilà, ça c'est le chapeau est celui-là et l'entité juridique. Après, pour rentrer peut-être un peu plus dans le concret, donc on est effectivement une association régionale qui a été créée il y a 20 ans statutairement. Et on a quatre missions principales. On en a d'autres, mais si on doit résumer nos missions, on en a quatre. La première, c'est de développer en qualité les actions de coopération et de solidarité internationale dans la région Centre-Val de Loire. Donc ça va passer par des propositions d'ateliers de formation. Ça va également passer par de l'accompagnement au montage de projets de coopération et de solidarité internationale. Le deuxième, ça va être de mettre en réseau les acteurs qui travaillent dans le champ de la coopération et de la solidarité internationale en région Centre-Val de Loire, alors à travers l'organisation des différents événements et du regroupement. Le troisième, c'est d'identifier les acteurs présents en région Centre-Val de Loire qui travaillent dans le champ de la coopération et de la solidarité. Donc nous, on a sur notre site internet, on a des annuaires qui référencent ces acteurs-là et que aujourd'hui, on a 900 acteurs référencés. Alors que ce soit des collectivités, des associations, des comités de jumelage, des entreprises, voilà, des acteurs très divers. Et la dernière grande mission, elle porte également sur ce qu'on va appeler de l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, qui passe par différents types d'actions. Le premier, ça va être vraiment des actions qui vont être par exemple en direction des écoles, mais ça peut être aussi l'implication de jeunes dans des actions de solidarité via les volontariats, et en particulier des volontariats soit à l'étranger, soit en région avec des volontaires qui viennent de l'étranger. Voilà. J'ai pas vraiment expliqué ce qu'était la solidarité et la coopération. C'est toujours un peu multiple, mais globalement, ce sont des actions au service d'autres populations dans des pays tiers, pour avoir une espèce de chapeau global sur la définition. Donc des actions de solidarité qui vont s'exprimer différemment. Et ensuite, nous, on est ce qu'on appelle un réseau régional multi-acteurs. Donc, on fonctionne en collège d'acteurs. Et donc, ça, c'est une vraie spécificité de notre réseau, puisqu'on a un collège des associations, un collège entreprises, un collège collectivités, un collège institutions, avec, par exemple, l'Université d'Orléans, un collège des organisations issues de l'immigration, et un collège comité de climat. Voilà, donc du coup, on a une représentation multiple, et on espère assez exhaustive de tous les acteurs qui peuvent s'engager dans des actions de coopération et de solidarité à l'international. La manière de faire de l'international, elle peut être diverse. On peut faire du développement économique à l'international, on peut faire des actions scientifiques dans le cadre de la recherche à l'international. Là, même si on retrouve ces acteurs qui vont, qui peuvent par ailleurs avoir des actions économiques, scientifiques, etc. à l'international. Nous, ce qui vont les regrouper en notre sein et au sein du réseau, s'entraider, c'est bien ces questions de solidarité et comment on agit avec avec d'autres, avec des partenaires étrangers, pour alors on voit c'est toujours des grands mots, hein, mais pour faire en sorte de mieux vivre, de alors après ça va être dans différents secteurs, donc ça peut s'écliner sur tous les secteurs, mais ça peut être par exemple pour un accès pour l'accès à l'eau, pour une meilleure éducation, etc., etc.
Oui, moi, pour répondre rapidement à la question sur morale, je parlerai plutôt d'éthique, c'est-à-dire que la solidarité internationale a beaucoup évolué ces dernières années, hein, et il est vrai qu'à une époque, il y avait beaucoup faire pour, hein, avec des actions de transport de matériel, d'aller faire pour. Aujourd'hui, et s'entraider, le réseau Afrique 37 ont la même éthique et essayent de la développer, hein, je crois, avec succès. C'est faire avec, c'est-à-dire que c'est la vraie notion de partenariat. Nous n'allons pas faire des actions pour faire des actions parce que nous pensons que c'est ce qui est bien pour le Sud. Tout ce qui est, ce que nous préconisons, c'est que les actions soient construites avec les partenaires du Sud, à la demande des partenaires du Sud, et de ne pas faire à leur place, parce que c'est aussi reconnaître qu'il y a des compétences importantes au Sud. Je ne sais pas si c'est une question de génération. Je crois que l'éducation à la solidarité internationale et au développement, elle est importante et que c'est comme ça aussi que l'esprit va changer. Alors actuellement, moi je ne peux pas dire, j'ai pas de recul suffisant pour ça, pour savoir si chez les jeunes c'est plus naturel ou pas. Ce qui est plus naturel peut-être, c'est de faire des actions avec des jeunes du Sud sans se poser trop de questions, c'est-à-dire avoir des échanges cordiaux, amicaux, autour de la musique, autour de projets de théâtre par exemple, hein, mais sur les actions de coopération de développement, je ne sais pas.
Sur les questions de solidarité internationale, c'est quand même quelque chose de nécessaire et d'important dans la mesure où, finalement, même par exemple pour une première expérience à l'étranger, on sait, pour par exemple des jeunes, on sait bien que ça nécessite aussi d'être accompagné, non pas alors à la fois pour que ça se passe bien quand on part dans un pays qu'on connaît pas, mais aussi pour décortiquer ce que ça signifie. Parce qu'assez vite, on peut rentrer dans des représentations, on peut renforcer certaines représentations pour qu'il y ait une bonne compréhension de finalement bah, pourquoi c'est comme ça. Et effectivement, bien sûr, c'est pas pareil qu'en France, mais il y a aussi des raisons qui expliquent cela. Dans certains secteurs, moi j'ai pu voir par exemple des étudiants en médecine qui globalement reproduisaient des choses que peut-être, en tout cas aujourd'hui, on ne souhaite plus que ce soit fait, c'est-à-dire on va vous apprendre, ils allaient dans un pays étranger et ils arrivaient pour apprendre des gestes sur les questions d'éducation à la sexualité, etc. Tout ça, c'est pas non plus quelque chose de forcément, et encore plus sur ces problématiques-là de simple. Voilà, donc sans doute les choses ont évolué, mais en tout cas, il y a quand même... ça doit être accompagné d'une démarche éducative et pédagogique, je pense.
Et alors justement, en fait d'éducation à la solidarité internationale, est-ce que vous voulez nous en dire plus l'une et l'autre sur les actions qui sont mises en place par vos structures ? Il y avait d'ailleurs une journée qui était prévue le 13 novembre, à destination des lycéens. Alors, est-ce que vous voulez nous en dire plus ?
D'abord, je voudrais dire quelques mots du Festival Plume d'Afrique, puisque cette journée du 13 novembre s'inscrivait dans le festival. Je n'ai pas présenté le réseau Afrique 37 tout à l'heure. Le réseau Afrique 37 s'est créé il y a environ 25 ans. Nous étions plusieurs associations ayant des partenariats avec l'Afrique et nous avons décidé de mettre en commun nos expériences au départ sur quelque chose d'assez simple, mettre en commun les expériences et de façon à ne pas réinventer chacun de son côté les évidences. Donc, ce réseau a beaucoup évolué. Il est à l'origine de la formation de Centrélé. Mais surtout, nous, les acteurs ici, faisant de la solidarité avec l'Afrique, au-delà des échanges sur nos actions de partenariat avec l'Afrique, nous avons souhaité nous exprimer ici et développer l'éducation à la solidarité internationale ici. Et c'est comme ça que nous avons été amenés à créer le Festival Plume d'Afrique, qui a pris de l'ampleur, hein. La première édition, c'est 2002. C'est un festival qui a lieu tous les deux ou trois ans, hein, qui repose uniquement sur le bénévolat. Et nous avons senti un courant important évoluer autour de cette manière d'intervenir. C'est-à-dire, il n'y a pas de grande déclaration sur la solidarité internationale, mais par la connaissance de l'autre, en particulier culturelle, eh bien, on arrive à développer un petit peu une idée différente de la solidarité internationale. Donc, je voulais juste remettre ça. Céline va parler du 13 novembre, mais je voulais juste rappeler un petit peu ça.
Bon, Marie-Claude, tu peux aussi continuer sur le 13 novembre. C'est vrai que donc nous, on a pensé cette journée qui, de fait, est reportée. C'était un partenariat entre le Festival Plume d'Afrique, puisque ça s'intégrait dans le festival. Une journée organisée à l'occasion des 20 ans de Centrélé, puisque 2020 est l'anniversaire des 20 ans, et avec un ensemble de partenaires institutionnels, puisque la mairie de Tours nous dédiait pour cette journée l'ensemble de leurs locaux. Donc c'est vraiment une belle opportunité qui devra être produite en 2021, du coup. Et bien sûr, avec l'appui du Conseil régional. Le Conseil régional, depuis la création de Centrélé, a toujours été un partenaire privilégié. Oui, au-delà d'un partenaire privilégié, ils ont qui porte des actions dans le champ de la solidarité internationale qui sont notables parce que aussi pour certaines d'entre elles novatrices, je pourrais parler du volontariat de réciprocité. Donc ça a quand même été une volonté de leur part de faire venir des jeunes étrangers de leur pays de coopération, donc où nous on a contribué à ces projets-là auprès de différents partenaires. Hein. Alors la ville de La Riche a accueilli une volontaire portugaise, mais il y en a eu une dizaine environ de volontaires mauritaniens, sénégalais, tchèques. Ils sont venus pendant plusieurs mois auprès de partenaires de la région. Et donc ça aussi, c'est une forme d'éducation à la solidarité internationale et en tout cas à l'interculturelle, parce que c'est une manière très concrète de faire vivre l'international sur le territoire. Le 13 novembre, donc dans cette journée consacrée, dans cette journée conjointe avec Plume d'Afrique, effectivement, il y a un temps consacré à un forum lycéen.
Au lycée, oui.
Donc un échange entre lycées pour échanger sur les actions qu'ils mettent en place avec des enseignants la plupart du temps, puisque en fait en région il y a quand même un certain nombre d'établissements qui sont très investis avec leurs enseignants pour monter des projets de solidarité internationale, créer des partenariats avec d'autres associations, que ce soit dans l'enseignement agricole, dans l'enseignement général, dans l'enseignement technique. Et c'était aussi faire de cette journée, faire de ce temps-là une opportunité de rencontre et d'échange entre lycéens qui ont pu vivre des expériences différentes. Et ça oui, aussi, c'est à la fois... Oui, t'as ouvert le code, pardon.
Non, je disais qu'effectivement, notre principe de départ, c'était vraiment celui-ci pour faire des rencontres lycéennes. C'est-à-dire que le contact, on était d'accord s'entraider Plume d'Afrique, nous avions des contacts lycéens qui étaient fortement engagés avec leur lycée, leurs enseignants, et le meilleur moyen de diffuser et de faire comprendre ce qu'était la solidarité internationale à d'autres lycéens, c'était d'organiser ces rencontres en direct. Parce qu'il y a vraiment des projets formidables dans différents lycées. En citant par exemple l'Indre-et-Loire, il y a le lycée Gramont avec Madagascar, Tananarive, le lycée Jean Monnet avec le Sénégal et le Mali, d'autres aussi, Vaucanson avec le Maroc. Il y a beaucoup de projets à Notre-Dame-la-Riche. Donc ce sont des projets vraiment extrêmement intéressants. Je souhaiterais en préciser un. C'est le projet du lycée Jean Monnet, qui était en partenariat avec le lycée de Bandiagara au Mali, et qui a déjà fait beaucoup d'actions de rencontres de jeunes. Mais avec la situation politique au Mali, par exemple, le lycée Jean Monnet s'est posé la question de comment continuer ce partenariat. Les lycéens maliens pouvaient continuer à venir, mais la réciproque n'était pas vraie. Et finalement, l'idée a été de faire un partenariat également avec le Sénégal, et les rencontres ont eu lieu au Sénégal l'année dernière. Et non seulement il y a eu une rencontre entre ces trois lycées, mais également l'organisation des ateliers de la pensée lycéenne avec Felvin Sarr, qui lui-même a créé les ateliers de la pensée à Dakar. Donc je trouve que c'est des projets formidables et que le moyen de les faire connaître à d'autres lycées, c'est évidemment la rencontre. Et c'est vraiment... je dirais un petit peu le cœur de nos missions à s'entraider au réseau Afrique 37.
Écoutons à présent une lecture par Muguet Del Homo du cœur des lecteurs Plume d'Afrique.
Beata Umwaimeres a grandi à Butare au Rwanda. C'est une auteure franco-rwandaise dont la maman était Tutsi. Elle avait 15 ans en 1994 au moment du génocide des Tutsis. Tous tes enfants dispersés est son premier roman paru dans la collection Autrement en 2019. En 2015 et en 2017, elle avait publié deux nouvelles, Ejo et les Ardes, et en 2019, elle a également publié un recueil de poèmes qui s'intitule Après le progrès. Dans son roman Tous tes enfants dispersés, elle porte la voix de trois générations de femmes qui tentent de renouer des liens brisés et de trouver leur place dans le monde d'aujourd'hui. C'est un roman intime à plusieurs voix qui nous amène par petites touches à mesure que les nœuds se défont au plus près des grands blessés du génocide. Nous nous sommes levés de bon matin. L'air est très humide, on pourrait s'enrhumer. Tes pulls, tes écharpes, désormais comme ta mère, tu tricotes toute la journée. Nous nous habillons chaudement pour aller voir la tombe de Bosco. Le cimetière est immense. Que de morts ici depuis 8 ans. Tu avances d'un pas assuré. Je devine que tu viens souvent. Je la repère tout de suite, toute blanche, entourée de couleurs. Les dernières traînées de brume finissent de s'élever au-dessus des sépultures. Tu as planté une bougainvillée fuchsia qui fleurit généreusement derrière la croix de bois verni. Il y a un vase posé sur le carrelage blanc avec une brassée d'œillets. Tu me regardes avec un air de compassion pendant que j'essaie de prier. Tous tes enfants dispersés, sur la terre comme au ciel, nous sommes là aujourd'hui. Un léger vent monte du fond de ma mémoire et parcourt lentement le cimetière. Il fait frissonner les feuilles de souvenirs, éparpille les poussières de regrets sans ménagement. Toi, tu as apprivoisé une solitude âcre et grise comme la fumée des cigarettes que tu fumes du matin au soir. Tu combats le froid en t'emmitouflant dans d'épaisses cuirasses de laine. Tu ressasses vaguement un passé que tu ne cherches plus à te libérer. On pourrait te mettre au musée, maman. Maintenant, tu restes pour éclabousser de couleurs la dernière demeure de ton fils. pluie de pétales pour conjurer l'oubli. Tu jardines au cimetière en attendant de voir ton petit-fils qui a poussé de l'autre côté de la terre, l'enfant qui a fleuri de l'autre côté du désastre. Sur le chemin du retour, tu tangues comme en pleine mer. Je pense alors que tu n'as jamais vu la mer, jamais mis les pieds sur un bateau, quasiment jamais quitté ce minuscule pays enclavé. Et je songe à l'étendue des sentiments que tu as pourtant parcouru en 60 ans. Témoin d'une époque, du naufrage d'un peuple, de la perte de tant d'illusions. Que peux-tu bien penser, toi, de la résurrection annoncée, de la réconciliation, des démons enterrés à fleur de terre, à fleur de guerre? Comment raconterais-tu tout ce bazar si l'occasion t'en était donnée? Écrit-on plus intensément quand la parole a cessé? Ta main ne cesse d'étreindre mon bras pour mieux m'atteindre dans les replis de toit que j'ai construits depuis si longtemps pour me protéger et réchauffer au point de faire fondre la cire froide qui a tout envahi. Tu me signifies que je n'ai rien à te pardonner, que tout cela n'était pas fait exprès. Tes doigts ont la douceur d'une cicatrice lissée, la chaleur d'un cœur apaisé. Accepter n'est pas se résigner, semble dire le sourire qui envahit ton visage, comme l'ombre d'une colombe qui traverserait une cour sous le soleil de fin de matinée. Peut-être sommes-nous enfin capables de nous entendre sans arrière-pensée. Je sonde mon cœur et reconnais que le temps de l'amertume a passé. Plus qu'une demi-journée à partager avec toi. Tu lâches mon bras quand nous pénétrons dans la cour avant de la maison et d'un large mouvement de la main me montre les fleurs qui débordent de la jardinière. Sur le mur grimpe un jasmin étoilé, une passiflore et un jasmin blanc dont les tiges sont si entrelacées qu'elles semblent de la même famille. Ainsi, tu ne fais pas que tricoter, tu jardines toute la sainte journée, au cimetière ou ici. Les fleurs de canna d'autrefois ont été remplacées par des hibiscus rouges et toujours de la misère partout, qui tombe jusqu'à terre, il faut parfois couper. Sur la barza devant le salon, tu as suspendu une dizaine d'orchidées ramenées de la forêt de Nyungwe. Elles habillent la paroi de taches veloutées, on dirait une fresque d'oiseaux empaillés. Tu as toujours aimé jardiner, sans doute en souvenir des 2 années à l'Institut de recherches agronomiques. Tu m'as transmis cette proximité avec les végétaux, les mains heureuses de plonger dans la terre, le nez poudré de pollen. Quand la nostalgie se faisait trop forte ces dernières années, j'allais parcourir les allées des jardins botaniques à la recherche d'espèces exotiques. Depuis 1 an, j'amène tous les samedis Stokely à la nouvelle serre tropicale de Pessac. Il se cache derrière les mandariniers ou les yuccas. Je lui dis « Presque tout ça pousse chez ta grand-mère, ta Nyogokuru. » Il croit que tu as un immense parc et 10 jardiniers pour l'entretenir. Il ne sait pas encore distinguer la grand-mère du pays. Tu as forcément créé tout ce qui vient du Rwanda. Et tant pis, si ces plantes en pot surchauffées sont les vestiges d'un butin colonial. J'ai une affection toute particulière pour les fleurs déracinées, rempotées, exposées. Je me sais comme elles, le fruit d'un passé enterré qui n'a pas fini de faire des racines.
Et donc on voit hein, Marie-Claude Bolzon aussi, donc vous citez Felwinsar qui était présent sur la dernière édition du festival Plume d'Afrique. Donc on voit là que ce festival, il y a une vraie ambition en fait, il y a une programmation ambitieuse parce que les invités, que ce soit des auteurs, des artistes ou des conférenciers, c'est vraiment c'est des pointures entre guillemets, vous faites venir des gens qui sont connus et reconnus. Et puis, il y a aussi tout un travail, je crois, sur créer du lien avec tous les publics, aussi bien donc les lycéens, mais aussi dans tous les quartiers, les personnes les plus jeunes, les personnes les plus âgées. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur cette idée de la culture en action, en fait, vous le disiez toutes les deux, mesdames, qu'en fait, l'idée du faire ensemble, il passe peut-être plus par la culture. Donc, on arrête de se poser des questions et de disserter. Et en fait, peut-être on écoute et on va voir.
Oui, je crois que, Mélissa, vous avez parfaitement résumé c'est l'état d'esprit du Festival Plume d'Afrique. Effectivement, nous organisons des débats avec des pointures. Hein, cette année, il y avait deux débats phares, enfin plusieurs débats phares, par exemple, dont Ancêtre avec Leonora Miano, à qui nous avions donné carte blanche. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, vous pouvez le regarder sur le site, mais on a également une politique dans les quartiers et depuis quelques années, alors, nous nous posions la question de dire mais comment nous pouvons toucher un public plus large pour les amener à assister par exemple à ces débats avec les pointures, parce qu'il y a aussi un certain public qui ne s'autorise pas à venir, considérant qu'ils n'ont pas leur place. Donc, on a commencé à faire des actions sur les quartiers et nous avons développé ces actions en partenariat avec les centres sociaux et avec des associations de quartiers. Et cette année, c'est trois grands projets, un sur le Sanitas, un sur le quartier Rabière à Joué-les-Tours et un autre sur le quartier Maryse-Bastier. Donc nous sommes assez fiers de ces projets et de ce travail en partenariat, toujours, hein, parce que nous, tout seuls, ça n'aurait pas grand sens, mais nous travaillons avec les partenaires sociaux sur ces quartiers, et je dis en priorité les centres sociaux. Et ce qui permet aussi de mettre en relation les populations de ces quartiers avec des invités de Plume d'Afrique auxquels ils n'auraient pas accès autrement. Et quand je dis projet sur les quartiers, c'est en direction de tous les âges. Hein, ça va des enfants scolarisés au centre de loisirs en passant par les habitants du quartier avec des manifestations multiples qui vont du côté festif, déambulation, musique, à des côtés de réflexion, rencontres avec des auteurs sur des problématiques.
C'est vrai que nous, parmi les membres de S'entraider, il y a aussi des choses qui sont... il y a aussi des actions que peuvent mener nos membres, qui sont des actions non pas dans le champ culturel en tant que tel, mais qui vont être... on a beaucoup d'acteurs qui vont travailler dans des secteurs très techniques. Ce que je pourrais rajouter, c'est que ça peut aussi être, ça peut prendre différentes formes. Il y a aussi tout ce qui, notamment les collectivités qui peuvent travailler dans le champ de l'eau, dans le champ des déchets aussi, où là on est plutôt, ça peut aussi être diffusé via des secteurs et des services techniques, par exemple de collectivités. Et si je prends le cas de la mairie d'Orléans, qui par exemple a un partenariat ancien avec Parakou au Bénin, ils ont aussi pu décliner ces actions spécifiques dans le secteur de l'eau en proposant un jeu autour des questions d'accès à l'eau, qu'ils ont ensuite proposé à un certain nombre d'établissements, de centres de loisirs de la ville d'Orléans pour que les enfants s'en emparent. Donc c'est aussi comment à partir de partenariats techniques de ce type, ça peut se décliner à travers des actions qui vont toucher plus largement, par exemple, les jeunes du territoire.
Je vous propose à présent une pause musicale. Écoutons Mali Sadjo, à retrouver sur l'album Noir Lac par David Nerman avec l'ensemble Sequenza, Catherine Simon-Pietri, Christelle Warren et Lassine Kouyaté. Thank you. venez d'écouter Mali Sadjo, à retrouver sur l'album Noir Lac. Vous évoquiez, Marie-Claude Bolzon, le fait qu'il y ait des actions Plume d'Afrique qui sont menées dans certains quartiers de la ville de Tours, notamment des quartiers dits prioritaires. Je pense par exemple au quartier du Sanitas, hein, un quartier où il y a un grand nombre de nationalités différentes, enfin vraiment qui est une richesse culturelle évidente. Et donc je me demande dans quelle mesure des jeunes gens qui habitent dans ces quartiers-là, donc qui ont plusieurs cultures, une culture française plus d'autres cultures d'autres pays, peut-être de pays d'Afrique justement, est-ce qu'il y a aussi une idée de valorisation, de se dire bah tiens là on a des personnes, de grands des penseurs ou des artistes liés à l'Afrique et qui viennent ici dans ce quartier prioritaire. Est-ce qu'il y a est-ce que vous avez ressenti peut-être ça dans certains projets, cette idée de valorisation ?
Oui, bien sûr, bien évidemment, nous avons senti cette idée de valorisation, pas seulement auprès de jeunes, hein, mais parfois avec, même sans faire intervenir des pointures, comme on dit. Par exemple, il y a 2 ans, lors du festival, nous avions organisé la première déambulation dans le quartier du Sanitas avec les grandes personnes d'Afrique, et nous avions eu des réactions extrêmement positives d'habitants du quartier qui se sentaient valorisés par le fait qu'on se soit donné la peine d'aller jusqu'à eux. Déjà aussi simple que cela. Bon, mais nous, évidemment, hein, nous souhaitons développer ces aspects-là. Et quand vous parlez de valorisation, nous, c'est aussi donner la parole, faire confiance à des gens de ces quartiers pour construire avec nous. Hein, c'est pas seulement, c'est le même principe qui nous guide dans nos actions avec l'Afrique. Par exemple, sur le quartier du Sanitas, en association avec l'association PIPO, nous avions prévu une grande journée de réflexion sur la manière de vivre sa relation avec les autres, etc. Et nous avons là fait confiance à Fatoumata Gassama, qui est une habitante du quartier, une jeune, et qui avait des tas d'idées pour organiser des rencontres et faire émerger la réflexion. Et nous lui avons donné carte, nous avons accepté qu'elle organise ça, et c'est une journée qui se fera, peut-être en mars, mais elle se fera. Et je crois que la valorisation, elle passe également par ça. Hein, par l'accompagnement, par mettre en avant des personnes qui ont des ressources et qui peuvent les faire connaître. Et c'est pas moi qui l'invente, mais une habitante du quartier avait parlé de fierté du quartier.
De manière plus large, enfin, en fait, effectivement, au-delà de la ville de Tours, sur TV, on est coordonnateur de deux événements qui se déroulent au mois de novembre, mais qui de fait sont transformés et ou reportés. Donc le Festival des Solidarités. Donc le Festival des Solidarités, ça a lieu 3 semaines en novembre. Justement, pour rebondir sur ce que disait Marie-Claude, c'est l'implication de citoyens pour mettre en avant la solidarité internationale. Et là, on est vraiment sur de l'animation de territoire, puisque c'est des comités qui se réunissent chaque année et tout au long de l'année pour inventer, imaginer des animations sur le territoire pendant ces 3 semaines autour de la solidarité internationale. Et ça, c'est aussi une manière de valoriser leurs actions, hein, et ce que les différents, et ce que l'ensemble des bénévoles peuvent porter, et pas que des bénévoles, mais des bénévoles et des structures de manière générale peuvent porter tout au long de l'année sur la solidarité internationale. Donc ça, c'est le Festisol. Aujourd'hui, avant c'était la semaine de la solidarité internationale, le nom a évolué. Le deuxième événement qui a lieu au mois de novembre, c'est le Festival Alimentaire, donc qui est un festival de cinéma qui traite de toutes les questions liées à l'alimentation. Donc ça passe par les questions agricoles, les questions également d'eau, etc. Donc pour cette édition, il a été transformé en partie, et je ne sais pas si je peux le citer maintenant, mais on retrouve un certain nombre de films, podcasts, émissions via une plateforme qui s'appelle Imago TV, pour le festival. Et donc, le festival alimentaire a créé un partenariat avec cette plateforme Imago TV, et on retrouve vraiment un ensemble de ressources intéressantes pour celles et ceux qui sont intéressés par cela. C'est vraiment des films, tout est en libre accès, c'est une très belle plateforme numérique qui s'est mise en place. Et donc voilà, donc pour Alimentaire, qui doit également avoir lieu au mois de novembre, on retrouve en tout cas un certain nombre de ressources sur cette plateforme. Donc ça aussi, c'est une belle manière de faire vivre les territoires et de valoriser les acteurs qui participent à ces actions.
Voici une nouvelle lecture par Muguette Delhomo du Cœur des lecteurs Plume d'Afrique.
Écrivaine, dramaturge, réalisatrice, artiste peintre, c'est avec tout cela que Gaëlle Octavia nous donne ce roman coloré, vivant, construit avec subtilité, qui nous tient en haleine. Avec ses personnages attachants et totalement liés par leur lieu de vie, le quartier, lui aussi personnage omniprésent, étouffant. La fin de Mam Baby, un roman d'une grande actualité. La fin de Mam Baby. C'est une toute petite ville ici. Si petite que quand on en parle, on l'appelle le quartier. Malgré sa faible superficie, il semble que le quartier ait été difficile à bâtir. En tout cas, ceux qui l'ont bâti n'ont pas eu l'idée, n'ont pas trouvé l'énergie, n'ont pas pris le temps, ne se sont pas donné la peine de le rendre agréable. Ainsi, le quartier est-il laid. Les murs de ces immeubles ne sont ni vraiment marrons, ni vraiment gris. L'église ultramoderne a une forme biscornue qui n'appelle pas du tout le recueillement. Ensuite, le quartier n'est pas très fonctionnel. La place centrale devant la mairie se dresse sur un sol en pente. Les jeunes mères ne pourraient pas, si elle le voulait, s'y arrêter pour un brin de causette de peur de voir s'échapper les poussettes vers le boulevard engorgé et ses véhicules fébriles. Les autres espaces ouverts ne sont pas mieux conçus, ce qui fait que la vie ici ne s'épanouit vraiment que dans l'enceinte de l'immense centre commercial, cœur monstrueux dont les chantiers sans fin atteste qu'il grossit de jour en jour. Peut-être qu'un beau matin, le centre commercial aura couvert tout le quartier. Les habitants se réveilleront dans le centre commercial et n'auront qu'à tendre le bras pour acheter ce que les commerçants leur proposeront. J'entends déjà certains dire que ce sera plus pratique. Quand les personnes extérieures parlent du quartier, elles évoquent sa violence. Un joli conte qui parle du quartier fournit à cela une explication mythologique. C'était une grande étendue vide et sans couleur. Le sol était dur comme l'horizon. On ne pouvait pas appeler ça une campagne, avec des parcelles cultivables, des villages, des étables. Il n'y avait rien à détruire ici. Si par hasard un homme se trouvait seul au milieu de la plaine, il sentait rapidement venir la menace. D'en haut, d'en bas, ou de derrière les collines, plus loin. Finalement, des hommes sont venus en groupe. Le voyage avait été harassant depuis leurs chemins continentaux, leurs mers déchaînées, leurs bateaux malades et leurs pneus crevés. Ils étaient couverts de poussière, trop épuisés pour avoir peur. Ils se sont trouvés au centre de la plaine qui entre-temps avait changé. Le sol brûlé, puis délavé, le sol dense, compact à force d'être martyrisé, avait été couvert de bâtiments au confort moderne. De grands cubes, remplis de meubles et d'électroménagers s'endassaient les uns sur les autres comme des Legos. Les familles nouvelles y ont pris place avec enthousiasme. Des langues nouvelles ont ricoché sur les parois des cages de béton fraîchement peintes. Entre les formes géométriques, on a parfois ajouté des sculptures aux couleurs vives, puisqu'on avait prévu de faire des enfants. On a tenté d'inventer de nouvelles règles de vie. Mais quelque chose d'ancien demeurait. L'impression d'une menace en haut, en bas et tout autour. On s'est aidé des religions, des maximes connues, des légendes et des chants. Une race inédite d'hommes et de femmes a fini par naître ici, dans cette ville que l'on disait neuve, malgré la menace ancienne respirée à chaque seconde avec l'air ambiant. Arrivée avant tout le monde, la violence semble revendiquer ceci. Le quartier lui appartient plus qu'à nous. La plupart des gens l'acceptent, même lorsqu'ils disent le contraire.
Et alors, dans Céline Leroux, dans l'idée de valorisation, dans quelle mesure pour des entreprises qui travaillent avec vous, enfin que vous pouvez accompagner via s'entraider, dans quelle mesure c'est aussi valorisant pour une entreprise de s'engager dans des projets de solidarité internationale?
On peut très vite basculer, en tout cas sur des problématiques autour de ce qu'on va appeler soit le greenwashing, c'est-à-dire on fait de la communication autour d'eux parce que ça donne une communication un peu éthique de l'entreprise, etc. Au-delà de ça, il y a quand même des choses très concrètes qui intéressent les entreprises, notamment en termes de valorisation des ressources humaines. Alors ça va être par exemple tout ce qui est mécénat de compétences qui est possible à l'étranger. Donc il existe des dispositifs permettant aux entreprises de libérer en fait leurs salariés sur un certain nombre de jours pour qu'ils réalisent une mission de solidarité internationale. Donc c'est intéressant pour les entreprises parce que ça constitue vraiment un levier de motivation en termes de ressources humaines. Et en ça, ça intéresse les entreprises. Et pour les organisations de manière générale, c'est intéressant parce que ça permet aussi d'avoir sur un temps, alors généralement c'est sur un temps assez court, ça va être 2-3 semaines, mais d'avoir des compétences techniques pointues sur certains sujets au service de projets. Voilà quelques exemples de partenariats possibles avec les entreprises dans le champ de la solidarité internationale. Et où chacun y retrouve un peu, il trouve un intérêt. Là, je vais plutôt parler d'un de nos membres, Électriciens sans frontières, qui est membre de, et puis qui fait partie du conseil d'administration de Centraide. Donc, Électriciens sans frontières, région Centre-Val-de-Loire, a un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Metalor, qui a une antenne en région. Et donc depuis plusieurs années, des salariés de Metalor contribuent à des projets mis en place par Électriciens sans frontières.
Covid oblige, vous l'avez dit, mesdames, les événements seront reportés, transformés. Est-ce que vous voulez nous en dire plus, Marie-Claude Bolzon, sur ce qu'il va advenir du Festival Plume d'Afrique? Qu'est-ce qui a pu avoir lieu? Qu'est-ce qui aura lieu? Quand? Comment?
Alors, pour l'instant, peu d'événements ont eu lieu. Ce qui a eu lieu, c'est essentiellement des actions en direction de jeunes dans le quartier Maris-Bassier pendant les vacances de Toussaint, avec des animations de jeux africains et des lectures. Des lectures faites par le cœur des lecteurs de Plume d'Afrique. Ce sont des bénévoles qui ont animé des lectures auprès de jeunes dans ce quartier et qui avaient l'intention de le faire ailleurs, évidemment. Donc, assez peu de choses pour l'instant, si ce n'est la réalisation d'un programme que vous avez pu voir et qui est à reprendre. Alors, la philosophie, en ce qui nous concerne, c'est de reporter toutes les manifestations qui peuvent être reportées. Mais pour cela, nous sommes, la particularité de Plume d'Afrique, c'est d'avoir un nombre de partenaires extrêmement important. Et tout ça se construit avec nos partenaires. On peut pas le décider seul. Et évidemment, chaque partenaire a lui aussi ses contraintes budgétaires, de calendrier, etc. Donc, tout est en discussion. Nous nous orientons actuellement vers un report de plusieurs manifestations en mars et début avril. Par exemple, avec la Maison des Écritures de Neuville-le-Roi et la résidence de Yaya Belascri qui est reportée au mois de mars. Nous aurons peut-être également un report à l'automne avec Léonora Miano. C'est-à-dire que Léonora Miano et les artistes engagés avec elle souhaitent maintenir ce projet de réflexion qui avait été mis en place et ce serait à l'automne, mais sans précision pour l'instant. En tout cas, en mars, déjà, en ce qui nous concerne, nous, Plume d'Afrique et S'entraider, la journée du 13 novembre à l'hôtel de ville de Tours que nous organisions avec des rencontres lycéennes mais également des débats, concerts, rencontres, et pour l'instant, je dis bien pour l'instant, nous prenons des précautions, reporté au 25 mars, puisque la ville de Tours continue à nous soutenir et très très vite a répondu à notre sollicitation et de réservation des locaux de l'hôtel de ville pour le 25 mars. Donc nous en sommes là pour l'instant. Il est vrai qu'en période de confinement, il est difficile aussi de réunir les gens, de discuter. Tous les contacts se font virtuellement. Chacun se débat un petit peu de son côté pour tout réorganiser. Voilà, nous espérons que la situation sanitaire nous permettra de ce report. Mais en tout cas, tout est presque à reconstruire. Pas dans l'idée. Pas dans l'idée ni dans les problématiques, mais concrètement.
Comment va le moral de l'équipe Plume d'Afrique ?
Eh bien, le moral de l'équipe de Plume d'Afrique est plutôt... Je trouve qu'il y a une forte résilience. Chacun s'exprime pour continuer. Bon, il y a eu un coup dur, il est vrai, avec ces annonces, parce que nous nous étions adaptés déjà de plusieurs façons. C'est-à-dire que déjà, nous avions annoncé que le festival serait à partir de novembre 2020. Nous avions déjà pris cette précaution, dès le mois de septembre, sachant qu'il serait très difficile de faire venir des troupes de l'étranger, comme Africanda ou AFEMA. Et déjà, avec ces troupes, nous avions négocié de faire des manifestations au mois de mars. Et puis ensuite, nous nous sommes adaptés au couvre-feu avec tous les changements d'horaire. Et puis maintenant, nous adaptons au confinement. Après, ce qui est très difficile actuellement, c'est de savoir quelle sera la situation au premier trimestre 2021. Mais pour l'instant, c'est une équipe mobilisée.
Oui, en plus, je crois que vous nous disiez tout à l'heure qu'il y a eu des réclamations. On voulait aussi que vos lecteurs... le cercle des lecteurs viennent, il y avait de la demande.
Oui, c'est-à-dire que il y a les règles du confinement qui sont pas toujours très claires et dans certains secteurs, par exemple les secteurs jeunes dans le périscolaire, un intervenant extérieur, c'est toujours possible. Bon, après nous avons eu des demandes parce que ce qui avait été fait pendant les vacances de Toussaint à Marie-Louise Bassier avait beaucoup plu aux animateurs, aux enfants, en ce qui concerne le cœur des lecteurs, et nous avons eu une demande pour continuer les mercredis du mois de novembre. Alors évidemment, c'est extrêmement tentant, mais nous avons aussi une responsabilité, c'est-à-dire est-ce qu'on doit demander à des bénévoles, est-ce qu'on peut accepter que des bénévoles aillent prendre des risques pour faire des lectures dans un centre social avec le périscolaire au mois de novembre. C'est un problème moral, c'est un questionnement fort. Après, le faire en visio, c'est tout de même pas la même chose, on peut le faire, mais c'est quand même tout de même pas la même chose dans le contact avec les enfants en particulier. Donc, le plus probable, c'est que ce soit repoussé. Mais c'est un questionnement, et les questionnements, ils sont quotidiens actuellement.
Céline Leroux, qu'en est-il de S'entraider alors ? Comment on s'adapte à cette épreuve Covid ?
Alors, il y a plusieurs niveaux. Bon, alors peut-être que ça, on l'a pas dit dans la présentation, mais c'est très bien, vu qu'on a une dimension régionale. C'est vrai qu'on est répartis sur le territoire. On a 4 bureaux, donc un à Tours, à Joué-lès-Tours plus précisément, un à Orléans, un à Bourges et un à Vendôme. Donc en tout cas, alors là je vais parler très égoïstement de notre équipe. Nous, on avait quand même déjà l'habitude de pas mal travailler à distance. Simplement, donc ça finalement, c'est bon. De fait, et ça s'est accentué, mais malgré tout, on avait cette habitude-là. Après, la question, elle se pose plus pour, bah, bien sûr, pour toutes les actions et qui finalement sont notre quotidien, les actions en direction des acteurs de la solidarité internationale. Donc c'est vrai que pendant le premier confinement, il a fallu qu'on reporte beaucoup des ateliers de formation qui étaient prévus. Depuis un an et demi, on a commencé à en développer en format webinaire. Donc on accélère ce mouvement-là. Néanmoins, ça pose d'autres problématiques, puisque ça pose aussi des problématiques qui sont plus générales, hein, mais dont on parlait avant de débuter l'émission, autour de quid des personnes qui n'ont pas d'ordinateur, qui ont des difficultés à mobiliser les outils numériques, qui font aussi partie des personnes avec lesquelles et des structures avec lesquelles on travaille. Parce que la solidarité internationale, c'est pas que même si ça s'est beaucoup professionnalisé, c'est aussi beaucoup de personnes volontaires, soit qui effectivement sont originaires de différents pays et qui ont une action de solidarité envers leur pays d'origine, soit des bénévoles, voilà, des actions individuelles en direction de différents pays, et voilà, et donc se pose quand même que quid de des personnes qui ont peu accès à l'outil numérique dans les actions qu'on peut mener, parce que le tout numérique ne résout pas tout. Donc nous, on en est aussi là aujourd'hui dans nos réflexions.
Et là, qui est-ce qui pourrait vous aider sur ces questions? La région, la ville de Tours?
Je sais pas trop. Nous, ce qu'on se dit plutôt, c'est que malgré tout, ben, le téléphone, ça fonctionne bien. WhatsApp, c'est quand même très utilisé. Alors on se dit, ben, est-ce que on peut pas utiliser WhatsApp aussi? Voilà, on commence à réfléchir à d'autres scénarios qui seront pas uniquement. Mais pour l'instant, on n'a pas de réponse. Mais en tout cas, qui passe pas uniquement par les plateformes qu'on peut utiliser, type toutes les plateformes qu'on voit aujourd'hui, Zoom, etc., pour faire des réunions. Enfin, WhatsApp, c'est voilà, on fait tout. Enfin, on voit bien que beaucoup de monde a WhatsApp sur son téléphone, etc. Donc ça, c'est une autre manière qu'un outil plus simple qui peut être mobilisé, par exemple. Mais aujourd'hui, on n'a pas de solution.
Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Marie-Claude Bolzon?
Bah écoutez, je sais pas, moi je peux ajouter des conseils de lecture, par exemple.
Excellente idée, voilà.
Hein, voilà, par exemple. Alors, vous vous en doutez, il y a le dernier essai de Léonora Miano, que nous avions invité au festival, qui s'appelle Afropéa, utopie post-occidentale et post-raciste. Dans ce même domaine est plus ancien Afrotopia de Felwyn Sarr. Hein, et je vous conseille vraiment de voir qui est Felwyn Sarr, un des grands penseurs de l'Afrique actuelle avec Achille Mbembe. Après, évidemment, je vous ferai rappeler quand même que Rahariman est le parrain de notre festival depuis toujours et que je conseille vivement la lecture de son dernier roman « Revenir ». Et puis, il y a un roman qui vient de sortir d'un autre écrivain d'origine africaine, Fiston Manza Munzila, La danse du vilain, que je vous conseille fortement dans un tout autre genre. Voilà, pour simplifier, mais si des auditeurs sont intéressés, sur le site Plume d'Afrique, il y a des conseils de lecture. Enfin, plus exactement, nous avons à Plume d'Afrique un comité de lecteurs qui lit des parutions depuis plusieurs années, qui fait des fiches de lecture, qui donne son avis. Donc vous pouvez consulter ses avis sur le site de Plume d'Afrique.
Céline Leroux, est-ce que vous avez des ressources à recommander à nos auditeurs, que ce soit des livres, de la musique ou des sites peut-être, des podcasts?
Oui, bah, du coup, le site dont je parlais, Imago TV, donc Imago, ça se prononce, où vraiment il y a une diversité de ressources, podcasts, films, documentaires, sur, pas que sur les... Bon, bien sûr dans le cadre du festival alimentaire, mais pas que, donc sur des questions d'engagement de manière générale, des problématiques, que ce soit le développement durable, donc ça c'est vraiment et tout en accès libre, donc ça c'est vraiment un beau site, je pense, si on veut avoir d'autres supports, donc les supports effectivement livres. Ensuite, bon bah moi je conseillerais de consulter notre site S'entraider. On met quand même régulièrement en ligne, on l'avait fait pour le premier confinement et on fera aussi de mettre aussi des ressources. Alors c'est vrai qu'il y a un certain nombre de webinaires possibles sur les problématiques de coopération et de relations internationales. Je pourrais citer l'IFRI, donc l'Institut français des relations internationales. Qui régulièrement et vraiment très régulièrement propose un certain nombre de webinaires autour de problématiques de relations internationales. Et puis donc sur notre site de S'entraider, on diffuse régulièrement différentes ressources à consulter.
Bien, merci mesdames pour cet échange et pour ces recommandations de choses à consulter en ces temps de confinement et où la bamboche est proscrite.
Belle conclusion.